Quelques mois après son arrivée, déjà connu et estimé de tous, Aureliano le Triste, cherchant une maison où faire venir sa mère et une sœur restée célibataire, qui n'était pas la fille du colonel, s'intéressa à la grande maison décrépite qui paraissait abandonnée à un angle de la place. Il demanda à qui elle appartenait. On lui répondit que la maison n'était à personne, qu'autrefois y avait vécu en solitaire une certaine veuve qui se nourrissait de terre et de la chaux des murs, et qu'on n'aperçut que deux fois dans la rue au cours de ces dernières années, avec un chapeau orné de minuscules fleurs artificielles et des souliers couleur de vieil argent traversant la place pour aller jusqu'au bureau de poste où elle envoya des lettres à l'évêque. On lui précisa que sa seule compagne avait été une servante sans cœur qui tuait chiens et chats ou tout animal pénétrant dans la maison et jetait les cadavres au beau milieu de la rue pour empoisonner le village avec la puanteur de la putréfaction. Cela faisait si longtemps que le soleil avait momifié la défroque de peau du dernier animal que tout le monde donnait pour acquis que la propriétaire et sa servante étaient mortes bien avant que les guerres ne prissent fin. Si la maison tenait encore debout, c'est qu'on n'avait pas eu d'hiver rigoureux ni de vent dévastateur ces dernières années. Les gonds émiettés par la rouille, les portes à peine retenues par des amas de toiles d'araignées, les fenêtres soudées par l'humidité, le dallage cassé par les herbes et les fleurs sauvages, dans les fentes duquel nichaient les lézards et toutes sortes de bestioles, tout paraissait confirmer la version selon laquelle aucun être humain n'avait vécu là depuis au moins un demi-siècle. Impulsif comme il était, Aureliano le Triste n'avait pas besoin d'autant de preuves pour passer à l'action. Il donna un coup d'épaule dans la porte principale et l'assemblage de bois vermoulu s'écroula sans fracas, en un cataclysme étouffé, ne laissant choir que poussière, matière terreuse des nids de termites. Aureliano le Triste demeura sur le seuil, attendant que se dissipât le nuage, et découvrit alors au centre de la pièce cette femme décharnée, encore vêtue d'une toilette du siècle précédent, avec quelques rares cheveux jaunes sur son crâne pelé, mais de grands yeux toujours superbes dans lesquels s'étaient éteintes les dernières étoiles de l'espoir, et la peau du visage toute fendillée par l'aridité de la solitude. Ébranlé par cette vision d'un autre monde, c'est à peine si Aureliano le Triste remarqua que la femme pointait sur lui un très ancien pistolet militaire. « Je vous demande pardon, » murmura-t-il. Elle demeura de marbre au centre de cette pièce tout encombrée de vieilleries, détaillant minutieusement ce géant aux épaules carrées avec son tatouage de cendre au front, et à travers le nuage de poussière, c'est dans la brume d'une autre époque qu'elle le vit, un fusil de chasse à deux coups en bandoulière et un chapelet de lapins de garenne à la main.
« Pour l'amour de Dieu !» s'exclama-t-elle à voix basse. « Ce n'est pas juste qu'on vienne maintenant jusque chez moi avec ce souvenir. »
« Je veux louer la maison, » fit Aureliano le Triste. Alors la femme braqua son pistolet, visant d'une poigne ferme la croix de cendre et releva le chien de l'arme avec une détermination inébranlable.
« Allez-vous-en »
ordonna-t-elle. Ce soir-là, au cours du dîner, Aureliano le Triste raconta cet épisode à la famille et Ursula, consternée, ne put retenir ses larmes.
« Dieu tout-puissant !»
s'écria-t-elle en se prenant la tête entre les mains.
« Elle est encore vivante !»
Le temps, les guerres, les innombrables calamités quotidiennes lui avaient fait oublier Rebecca. La seule à n'avoir un seul instant perdu conscience qu'elle était en vie, croupissant dans son jus de larve, était l'implacable Amaranta, elle-même fort décatie. Elle songeait à elle dès l'aube, lorsque la glace de son cœur la réveillait dans son lit solitaire, et elle pensait encore à elle quand elle savonnait ses seins tout flasques et son ventre flétri, quand elle enfilait les blancs jupons et jupes à volants de la vieillesse, et lorsqu'elle changeait la bande noire de sa main, rappel de sa terrible expiation. Sans arrêt, quelle que fût l'heure, endormie ou éveillée, dans les moments les plus sublimes comme dans les plus sordides, Amaranta pensait à Rebecca. Car la solitude avait fini par trier ses souvenirs, avait incinéré les encombrants monceaux d'ordures nostalgiques que la vie avait accumulés dans son cœur, et purifié, magnifié, rendu éternels les autres, les plus amers. Par elle, Remedios la Belle connaissait l'existence de Rebecca. Chaque fois qu'elle passait devant la demeure en ruine, elle lui racontait quelque incident pénible, quelque fable ignominieuse, essayant ainsi de faire partager à sa nièce son exténuante rancœur, afin de la prolonger au-delà de sa propre mort. Mais elle ne put arriver à ses fins, car Remedios était réfractaire à tout sentiment dicté par la passion et plus encore à ceux d'autrui. Ursula, en revanche, avait subi une évolution contraire à celle d'Amaranta et se mit à évoquer Rebecca d'après un souvenir exempt d'impureté car l'image de cette créature pitoyable, qu'on avait amenée à la maison avec l'étui rempli d'ossements de ses parents, prévalut sur l'offense qui l'avait rendu indigne de vivre plus longtemps rattaché au trône familial. Aureliano II décida qu'il fallait la ramener à la maison et l'héberger. Mais ses bonnes résolutions se heurtèrent à l'intransigeance sans faille de Rebecca, qui avait eu besoin de tant d'années de souffrance et de misère pour conquérir les privilèges de la solitude, et n'était plus disposée à y renoncer en échange d'une vieillesse troublée par les illusoires attraits de la miséricorde. En février, quand les 16 fils du colonel Aureliano Buendía s'en revinrent, toujours marqués de la croix de cendre, Aureliano le Triste leur parla de Rebecca dans le tumulte des festivités, et il ne leur fallut qu'une demi-journée pour redonner quelque apparence à la maison, changer portes et fenêtres, repeindre la façade de couleur gaie, étayer les murs et répandre un ciment nouveau sur le sol. Mais ils ne purent obtenir l'autorisation de poursuivre leurs réparations à l'intérieur. Rebecca ne se montra même pas à la porte. Elle les laissa terminer leur étourdissant travail de restauration, puis calcula le montant des dépenses et leur envoya par l'intermédiaire d'Argenida, la vieille servante qui lui tenait toujours compagnie, une poignée de pièces de monnaie déjà retirées de la circulation depuis la dernière guerre, mais qui, dans l'esprit de Rebecca, continuait d'avoir cours. C'est alors qu'on put mesurer à quel inconcevable degré elle s'était coupée du reste du monde, et l'on comprit qu'il serait impossible de l'enlever à son opiniâtre retraite tant qu'il lui resterait un souffle de vie. Lors de la seconde visite que rendirent à Macondo les fils du colonel Aureliano Buendía, un autre d'entre eux, Aureliano le Centième, resta à travailler avec Aureliano le Triste. Il avait été l'un des premiers à venir à la maison pour être baptisé. Et Ursula et Amaranta se souvenaient fort bien de lui, car au bout de quelques heures, il avait brisé tous les objets fragiles qui lui étaient passés entre les mains. Le temps avait modéré l'ardeur avec laquelle il avait grandi et forcié à l'origine, et c'était à présent un homme de taille moyenne, marqué par les cicatrices de la petite vérole, mais l'étonnant pouvoir de destruction de ses mains était resté intact. Il cassa tant d'assiettes, parfois sans même y toucher, que Fernanda préféra lui acheter un service en étain avant qu'il n'en terminât avec les dernières pièces de sa précieuse vaisselle, ce qui n'empêcha pas les assiettes de métal, pourtant robustes, d'être écaillées et tordues en un rien de temps. Mais en contrepartie de cette irrémédiable faculté dont il était lui-même exaspéré, il était d'une cordialité qui inspirait immédiatement confiance, et sa capacité de travail était formidable. En peu de temps, il accrut la production de glace dans de telles proportions qu'elle déborda le marché local et qu'Aureliano le Triste dut songer à une éventuelle extension de son affaire aux autres bourgades du Marigot. C'est alors qu'il imagina un pas décisif, non seulement pour la modernisation de son industrie, mais pour le rattachement du village au reste du monde. « Il faut faire venir le chemin de fer jusqu'ici, » dit-il. C'était la première fois qu'on entendait prononcer ces mots à Macondo. À la vue du plan que dessina à table Aureliano le Triste, et qui descendait en droite ligne des schémas par lesquels José Arcadio Buendía avait illustré son projet de guerre solaire, Ursula se trouva confirmée dans son impression que le temps tournait en rond. Mais, à la différence de son grand-père, Aureliano le Triste ne perdait ni le sommeil ni l'appétit et ne tourmentait personne avec des crises de mauvaise humeur. Au contraire, il concevait les plus extravagants projets comme des possibilités immédiates, en évaluait rationnellement le prix de revient et les investissements, et les conduisait à terme sans avoir à passer par des intermèdes d'exaspération. Quant à Aureliano le Second, s'il tenait de son arrière-grand-père quelque chose qu'il n'avait pas hérité du colonel Aureliano Buendía, c'était bien une incapacité absolue à tirer les leçons d'un échec, et il déboursa l'argent pour faire venir le chemin de fer, avec la même insouciance qu'il en avait déboursé pour financer l'absurde compagnie de navigation de son frère. Aureliano le Triste consulta le calendrier et s'en fut le mercredi suivant pour être de retour après la saison des pluies. On ne reçut pas d'autres nouvelles. Aureliano le Centième, débordé par la prospérité de sa fabrique, avait déjà commencé à expérimenter la fabrication de la glace à partir de jus de fruits en remplacement de l'eau et, sans le savoir ni le vouloir, découvrit de la sorte les fondements essentiels de l'invention du sorbet en voulant diversifier la production d'une entreprise qu'il supposait lui appartenir en propre dans la mesure où son frère, après la saison des pluies et que se fût écoulé tout un été sans nouvelles, n'avait toujours pas donné signe de vie. Au début de l'hiver suivant, pourtant, une femme qui lavait du linge à la rivière à l'heure la plus chaude de la journée se mit à traverser la grand-rue en poussant des hurlements stridents dans un tel état de commotion que c'en était alarmant.
Il arrive un machin épouvantable, réussit-elle à expliquer. Comme une cuisine traînant après elle un village entier.
À ce moment précis, la petite agglomération fut ébranlée par un coup de sifflet qui retentit de manière effrayante et par une extraordinaire respiration essoufflée. Au cours des semaines passées, on avait bien remarqué les équipes qui posaient les traverses et les rails. Mais personne n'y avait prêté attention, car on pensait qu'il s'agissait là d'une nouvelle invention des gitans, qui s'en revenaient avec leurs pipeaux et tambourins à grelots, dont les rengaines centenaires avaient perdu tout prestige, vantant les incomparables vertus de Dieu sait quel exquis élixir laxatif, des excentriques Djalili de Jalalabad. Mais, quand ils se furent remis de la surprise provoquée par les sifflements et les halètements, tous les habitants se précipitèrent dans la rue pour apercevoir Aureliano le Triste, juché sur la locomotive, les saluant de la main et découvrir médusé le train tout décoré de fleurs qui arrivait pour la première fois avec un retard de 8 mois sur son horaire. Cet innocent train jaune, qui devait amener tant d'incertitudes et d'évidences, tant de satisfactions et de mésaventures, tant de changements, de calamités et de nostalgie à Macondo.